Il sera question des Blocos ce lundi 10 mai à 23h05 sur France 3 Pays de la Loire avec le documentaire « À chacun son Blocos » du journaliste Christophe François. Bonjour Christophe.
Bonjour alors, bonjour Neptune.
Quel Blocos fais-tu découvrir et visiter durant ces 52 minutes de ce documentaire ?
Dans ce documentaire, on visite des Blocos d'une latitude à peu près à la hauteur de Bordeaux jusqu'à Dunkerque. C'est pas un catalogue, hein, mais voilà, ça permet de rencontrer surtout différents personnages qui s'intéressent d'une façon ou d'une autre aux Blocos.
Racontes-tu leur histoire dans le temps, notamment avec la valorisation ou non de ces Blocos ?
Dans l'histoire, moi je cherchais depuis très très longtemps, c'est un sujet qui m'intéresse depuis l'enfance. Hein. Après, avec mon métier, j'essaye de voir comment je pouvais en parler. Mais il y avait déjà eu des documentaires de faits qui racontaient la construction du mur, avec l'opération Todd, etc. etc. Donc, si je faisais la même chose, je n'ajoutais rien du tout. Donc, l'idée, c'était de trouver une façon d'en parler autrement. Et c'est grâce à une pièce de théâtre qui s'appelle Blocos que que quelqu'un m'a montré qu'on pouvait être moderne et parler de cette époque et de ces vestiges-là. Et donc, l'idée, c'était ça. C'était d'intéresser toutes les générations au Blocos aujourd'hui et demain.
Car dans ton documentaire, il n'y a pas d'image d'archives. C'est un parti pris.
Exactement, voilà, c'est la particularité. Au début, j'hésitais. Et puis à un moment, j'ai dit non, il faut prendre un parti pris. Et donc, pas d'image d'archives de manière à ancrer la visite et la réflexion sur les Blocos aujourd'hui et pour demain. Donc, cette pièce de théâtre fait vraiment partie du décor parce qu'elle interroge aussi qu'est-ce que trouveront les archéologues du mur de l'Atlantique dans 100 ans, dans 1000 ans. Parce que c'est aussi des bâtiments qui représentent une ligne de défense qui va de la frontière espagnole jusqu'à la Norvège. Donc c'est vraiment un ouvrage de guerre, hein, on était d'accord, mais c'est un ouvrage qui fait partie des grands ouvrages du XXe siècle et même au-delà. Quoi.
Pour toi, est-ce que ça serait important de valoriser ces Blocos ?
Alors, on ne pourra pas tous les valoriser, parce que certains, on rappelle qu'au départ, il n'y a pas eu de permis de construire, de déposer, hein, donc ça ne s'est pas fait dans la concertation, ça s'est fait dans l'intérêt de l'armée allemande qui voulait se défendre face à un éventuel débarquement, donc ça s'est imposé. Donc aujourd'hui, presque 80 ans ont passé, et il y a des endroits où ça gêne plutôt qu'autre chose. Donc il y a déjà eu plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de Blocos qui ont été détruits parce que la vie continue et qu'il y a des aménagements nécessaires. Moi, je vois à Saint-Nazaire, hein, que ça soit pour bientôt la plateforme pour les éoliennes ou des choses comme ça, il y a nécessité à un moment de transformer le site. Maintenant, il faut les valoriser et en tout cas les sortir de l'indifférence et de l'oubli, parce que pour l'instant, c'est un peu ça qu'il y avait. C'était de sinistre mémoire. Moi, je vis aujourd'hui à Saint-Nazaire et en face de moi, la base des sous-marins, et c'est toujours pour certains une sombre part de l'histoire. Maintenant, elle a été réinvestie. On a des lieux de culture à l'intérieur, salles de concert, des espaces de découverte de l'histoire des paquebots, etc. Donc, il y a moyen d'en faire autre chose. Donc, je ne sais pas si à travers ça, on les valorise, mais en tout cas, on les intègre à notre vie d'aujourd'hui et ça permet de ne pas oublier le passé.
Le documentaire commence à Noirmoutier avec des enfants. C'était important pour toi de faire connaître ces Blocos à ces enfants ? Il y a certaines personnes et certains enfants ne les connaissaient pas, non ?
Absolument, c'est ça, tout à fait. Alors, ça, c'était la seule scène que j'avais écrite depuis le départ. C'était ça, parce que, en ce qui me concerne et en ce qui concerne l'ensemble des personnages qui sont dans le documentaire, tout est lié à l'enfance. C'est-à-dire que, moi, c'était en Bretagne-Nord, mais pour d'autres, c'était en Vendée, c'était en Pays de la Loire, en Loire-Atlantique, etc. Gamin, on jouait parce que c'était un endroit un peu mystérieux, un peu froid, un peu sombre, un peu inquiétant, donc on aimait bien aller se faire peur ou fumer une cigarette ou embrasser quelqu'un, etc. Donc c'est des moments, il se passe des choses pendant ces moments de l'enfance, et puis après on oublie, on passe à autre chose, et puis parfois ça ressurgit. Et dans mes personnages, tous sont revenus vers les Blocos d'une façon ou d'une autre, à travers leur métier, à travers une passion, etc. Donc je voulais vraiment commencer avec l'enfance, et j'ai trouvé dans tous les paysages où je suis allé, où il y avait des Blocos, je voulais quelque chose où il n'y ait pas de repère géographique, de manière à ce qu'on puisse penser que ça peut être en Aquitaine, en Vendée, que ça puisse être dans les Côtes d'Armor ou en Normandie, mais montrer juste des enfants et des Blocos. Donc je suis tombé sur Noirmoutier, où il y a plusieurs sites de blocos, parce que c'était une zone qui était fortement implantée par des ouvrages de défense allemande. Hein. C'était l'accès au port de Saint-Nazaire qui était visé. Donc,
notamment à la Guérinière.
Voilà, exactement. Et à la Guérinière, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. C'était sur au tout début de la Guérinière, un endroit où il faut marcher pas mal, donc c'est pas forcément très fréquenté par quelques jeunes graffeurs peut-être, mais pas par le grand public. Et même les enfants de la Guérinière, certains nous ont dit, mais moi j'étais jamais venu là, parce qu'ils en ont d'autres qui sont à la plage de la cantine. Il y a des casemates qui sont là-bas, mais à la plage là où on est allé, au milieu de la plage, que des dunes et quelques blocos qui sont là, qui commencent à dévaler la dune. Et quelques graffitis, et puis voilà, on a demandé aux enfants de voilà, bah, lâchez-vous, jouez. Et je pense qu'ils n'ont pas eu à se faire prier longtemps, et nous on s'est régalé en images avec ces enfants et ces blocos, quoi.
Ces jeunes connaissaient le contexte historique de ces blocos, pas du tout?
Alors ils savent vaguement que c'est la guerre, hein. Suivant la saison, ça a été plus ou moins étudié à l'école. En tout cas, je trouve ça important quand on est à proximité de sites comme ça historiques, de pouvoir y avoir accès. Parce que souvent, maintenant, les blocos, pour les mairies, ben voilà, y a bien des fois où on les trouve bouchés avec des parpaings, parce que sinon, le maire craint d'être responsable en cas d'accident, etc. Et donc, on bouche les blocos, et puis on s'en occupe plus. Les résultats, les enfants n'y ont plus accès. Alors que c'est vraiment quelque chose d'initiatique. Vraiment pour eux. Ben, je dis, les premières sensations, les jeux, voilà, on n'a pas forcément un jouet comme ça, en pleine nature, accessible, et ça, voilà, c'est un jouet qui est inusable, et les enfants peuvent s'en servir à volonté. Donc, voilà, je ne sais pas s'ils relient directement à la guerre, mais en tout cas, les souvenirs d'enfance les suivront, et un jour, ils feront, voilà, le lien avec l'histoire.
Avec qui as-tu travaillé sur ce documentaire?
Alors, j'ai travaillé avec un ami d'enfance à la caméra. Moi, j'étais souvent aussi tout seul parce que je pouvais pas faire autrement. Hein. Parfois, il y avait un chantier de démolition qui démarrait, il fallait que j'y aille tout de suite. Mais après, en ce qui concerne la Vendée, donc la Guérinière et les enfants de la Guérinière. Et puis, j'avais pensé, moi, à une voix, à la voix de quelqu'un pour faire le commentaire. Et j'en avais parlé à Clément Bertrand. Et puis le producteur m'a dit, non, c'est bien quand c'est le réalisateur qui parle, parce que il est impliqué, il va mettre le ton, etc. Et du coup, par contre, lorsqu'on fait un documentaire, on bénéficie d'aide à la création du Centre National de la Cinématographie. Et aujourd'hui, la condition sine qua non de cette aide, c'est qu'il y ait une création de musique originale. On reprend pas des disques, etc. On demande à des artistes de créer une musique qui va vraiment collé au documentaire, à l'esprit, à la séquence, etc. Et du coup, la discussion a glissé vers la musique, et j'ai demandé à Clément si c'est quelque chose qui pouvait l'intéresser, et Clément a répondu favorablement. Je savais que la trame historique l'intéressait. Et maintenant, les blocos, c'est ce que ça inspire un musicien, je ne savais pas vraiment. Mais c'est la première personne à qui j'ai proposé ça, et qui a répondu oui, donc on a travaillé ensemble.
La musique, ce que tu nous dis, Christophe, c'est que Clément Bertrand a composé à la musique, Clément Bertrand et Chloé Giraudon.
Oui, tout à fait, c'est une musique originale, créée spécialement pour ça. Donc, alors, on n'a pas joué avec la facilité, parce que le confinement est arrivé. Donc, moi, je pouvais pas, j'avais pas commencé le montage. Donc je pouvais pas transmettre à Clément tout de suite des séquences vidéo, donc je lui ai transmis quelques photos et quelques mots-clés. Voilà, moi je dis c'est des blocos, si on en parle de façon moderne, contemporaine, aujourd'hui, et je travaille là-dessus avec des personnages. On va faire ci, on va descendre à l'intérieur de blocos, on va aller avec du théâtre, on va aller avec des bunkers archéologues, etc. Et au bout de quelques temps, Clément m'a proposé un thème musical et m'a dit « ça, on peut le décliner. Si le thème te va, on va pouvoir le décliner version piano, version violoncelle, version piano et violoncelle. Et puis dedans, tu pourras choisir comme tu veux, puisque ça sera sur plusieurs pistes. Et donc, on pourra recomposer un petit peu le thème, ou en tout cas le colorer vraiment de façon très précise pour chaque séquence. »
Christophe, est-ce que tu as interviewé des historiens par rapport à ces blocos ?
Alors, historien, pas vraiment, si ce n'est des bunkers. Alors, on dit soit bunkerologue ou bunker archéologue, et j'en ai suivi un notamment.
Alain Chazette, non ?
Alain Chazette, exactement, qui est une des références, pour pas dire la référence en France, en matière de mur de l'Atlantique, puisque c'est comme tous mes personnages, un passionné depuis l'enfance. Sauf que lui, il a poussé le bouchon, il en a fait son métier, c'est-à-dire que il écrit des livres sur le mur de l'Atlantique où il inventorie les ouvrages site par site et ça fait des œuvres vraiment vraiment complètes techniquement parlant avec toutes les informations, des images d'archives. Donc il y a une banque de données énorme. Il fait ça depuis plus de 30 ans. Donc voilà, Alain Chazette, ça a été vraiment celui que j'ai suivi parce qu'il a quasiment réponse à tout. Donc c'était ma référence. Il y a plusieurs ponts quand même entre les lieux et le mur de l'Atlantique et mon documentaire parce que Alain Chazette est venu accompagné d'Annabelle Chevitteau. Il est venu inventorier le patrimoine Seconde Guerre mondiale sur les lieux.
Chacun son blocos, c'est à découvrir sur France 3 Pays de la Loire ce lundi 10 mai à 23h05. Le documentaire sera également disponible sur le site internet France 3 Pays de la Loire, non ?
Oui, tout à fait. Pendant un mois, il y a possibilité de le voir en replay parce que 23h05, bon voilà, on a le droit de faire autre chose à ce temps-là. Donc ça sera aussi possible en replay sur le site de France 3 Pays de la Loire.
Merci Christophe. François, on rappelle, tu es journaliste à France 3. À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.